Témoignage du traumatisme subi dans son enfance, Mélodie Abraham est notre invitée pour présenter son livre intitulé « Je l'appelais tonton », l'histoire d'une vie brisée qui a su se reconstruire. Mélodie Abraham répond aux questions de Chris Alessandri. Mélodie Abraham, vous êtes notre invitée sur Fréquence Mistral. Nous allons parler d'un sujet qui vous est personnel et un sujet délicat. Vous venez de signer dernièrement votre livre « Je l'appelais tonton ». C'est une histoire difficile que vous livrez.
Oui, merci de m'avoir invitée déjà. C'est mon histoire en fait. C'est l'histoire d'une petite fille que j'étais de 6 ans et qui était violée par son tonton à plusieurs reprises pendant plusieurs années. Et j'ai décidé d'écrire ce livre pour raconter ce que subit un enfant quand il est violé. Et tout le parcours compliqué de la jeunesse, de l'enfant, de l'ado, de la femme, de tout le parcours qui suit les viols. À l'âge de 26 ans, je suis enceinte de ma fille et je regarde un reportage où je vois un homme, Jérôme Nosé, où j'entends un homme dans un reportage qui raconte ses viols qu'il a subis. Et il parle, il a un courage énorme et je me dis comment il fait pour raconter tout ça, pour parler de tout ce qu'il a vécu. Il cherche d'autres victimes, il a entamé tout un combat et là il parle du délai de prescription et un délai une expression que je ne connaissais pas. Et je me dis... J'ai 26 ans à l'époque, et en fait, à l'époque, c'était 10 ans après la majorité où on pouvait porter plainte. Et il me restait plus que 2 ans pour parler, et là, je me suis dit, il faut que je parle. Voilà.
Mélodie, c'est un traumatisme sur lequel vous vous êtes construit un certain temps. À partir de quel moment est-ce que vous avez pris conscience qu'effectivement, vous aviez 6 ans quand ça a commencé, à partir de quel moment vous avez pris conscience qu'effectivement, il se passait quelque chose qui n'était pas normal ?
On va dire dès le début. Au départ, en fait, les premières fois, je me suis dit que c'était normal parce qu'on m'avait jamais expliqué ce que c'était le fait de. On m'avait jamais fait de prévention en fait sur les attouchements, sur le corps, sur le consentement. Donc au début, je pensais que comme c'était mon tonton, qu'il m'aimait, que je l'aimais, c'était quelqu'un de la famille, c'était quelqu'un qui était plus apprécié de la famille. Je pensais que c'était normal en fait. Et puis je me suis rendu compte que ça ne l'était pas du tout quand après ça nous plaît pas, quand ça fait mal, quand on n'a pas envie mais qu'il faut continuer. On va dire quasiment dès le début, à 6 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais j'avais tellement peur, j'avais honte, voilà, c'était impossible pour moi de parler, je suis restée dans le silence en fait.
À un moment donné, il y a eu, disons, des événements qui ont fait que dans votre entourage, une personne a parlé sur ce tonton. Qu'est-ce qu'elle a dit et qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors oui, j'avais 10 ans. C'est ma tante, la plus jeune des sœurs de ma maman, qui a avoué les viols qu'elle avait suivis par la même personne. Donc pour elle, c'était son beau-frère. Elle a tout avoué à mes parents, elle a tout avoué à son autre sœur. Et elle a dit qu'elle pensait que moi aussi, j'avais vécu des choses parce que j'avais des gestes qui étaient anormaux, parce que je jouais tout le temps au docteur. Donc elle en a parlé à mes parents, et mes parents, j'étais en 6e, j'avais 10 ans, ils sont venus me voir dans ma chambre et ils m'ont dit, voilà, il y a quelqu'un de la famille qui nous a dit qu'une personne avait fait des choses sur des enfants et que toi aussi, on a des vidéos, on a tout, il faut que tu nous dises. Mais là, c'était à ce moment-là, à cette époque-là, malheureusement, c'était impossible pour moi de parler parce que j'avais une peur atroce que mon papa, il le tue, vraiment. Donc, la peur plus la honte. J'avais honte parce que je me disais, c'est de ma faute. S'il m'a fait ça, c'est que je le voulais aussi. Enfin, je me posais tout un tas de questions. Enfin, il m'était impossible à cette époque-là, de toute façon, de dire quoi que ce soit. Donc, j'ai dit non. J'ai dit qu'il ne m'était jamais rien arrivé. Et mes parents n'ont pas cru, en fait. Ma tante, voilà, s'en est restée là pour le...
De 6 ans à 10 ans, pour une enfant, celle que vous étiez, c'est toute une éternité. Hein. C'est très long à traverser. Et il y a eu cette culpabilité. Cette culpabilité, de quelle façon elle a évolué ? Comment vous l'avez vécue ? Et comment, à présent, vous en êtes débarrassée ?
En fait, j'en ai plus reparlé après, en fait. Quand ça s'est passé, mon oncle et ma tante ont divorcé. Il m'a plus approché, il m'a plus rien fait. Donc j'ai essayé de vivre ma vie de petite fille, d'adolescente, comme si de rien n'était, même si en fait, au fond de moi, c'était compliqué et c'était pas possible. Mais j'avais plus de culpabilité à ce moment-là parce que j'avais tout enfoui. J'étais consciente de tout ce qui m'était arrivé, mais j'avais tout enfoui et je voulais vivre, on va dire, normalement. Voilà.
Ce déclencheur qu'il y a eu, donc vous le disiez, hein, cette émission de télé que vous avez regardée, comment est-ce que vous l'avez reçu ? Est-ce que ça a été un choc ? Ça a été violent ? Ça a été une analyse longue ? Ça a été instantané ? Parce qu'il y a des phases où l'on peut oublier certaines choses. Vous n'avez rien oublié.
Non, ça a été, un choc. Ça a été, mais ça a été le déclencheur de tout le reste de ma vie, en fait. Ça a été... ça a été vital, c'était un besoin vital. Quand je l'ai vu, que j'ai dit, mon Dieu, il arrive à parler, il arrive à raconter toute son histoire à la télévision en plus. Pour moi, il avait un courage énorme. Et je me suis dit, là, il me reste 2 ans, il faut que je le fasse. Et c'était vital en fait, c'était un besoin. Il fallait que j'aille porter plainte, même si je pouvais, le soir même. Et donc il fallait que je parle à mes parents, que je leur... Parce que pour moi, je leur avais menti depuis toutes ces années. Il fallait que j'arrête de mentir, que j'arrête de me voiler la face. Il fallait que je me batte et, voilà, et que je porte plainte, que j'avoue tout à mes parents. Que, voilà, ça a été vraiment un choc, un déclic. Et après, ça a été fort en émotion parce que après cette émission, j'ai pas arrêté de pleurer. Je faisais des crises d'angoisse. Mais ça a été vraiment... Je peux dire que Jérôme Nauzet, j'appelle mon sauveur parce qu'il m'a vraiment sauvé la vie, en fait. Ouais.
Mélodie Abraham, quand vous prenez la décision de rentrer dans un circuit, le côté judiciaire, ça va de soi, vous y rentrez comment ? Parce que là, vous êtes seul et vous êtes avec vous-même en quelque sorte et vous allez défendre une petite fille qui avait 6 ans à l'époque.
J'ai eu la chance, en avouant tout à mes parents, d'être crue et d'être entourée. Mes parents avaient un doute quand j'avais 10 ans et ça s'est confirmé quand j'ai tout avoué à mon papa, il est parti et il est allé le fracasser. Et grâce à ça, on va dire, il a avoué. Il n'a pas avoué instantanément les viols, mais il a avoué les attouchements sexuels directement quand mon père l'a fracassé. Puis après, les policiers sont venus, il a été mis en garde à vue, il y a eu voilà, tout un tas de... Et après, il a avoué. Et quand j'ai décidé de porter plainte, j'ai téléphoné à ma tante et je lui ai dit, écoute, je vais porter plainte, est-ce que tu me suis ? Et elle m'a dit, oui, je te suis, on va faire ça à deux. Donc ça a été beaucoup plus simple, on était deux, j'étais pas seule, j'étais entourée, voilà.
Alors ça, c'est disons une première phase que vous avez traversée encore très courageusement. Après, il y a eu un choc en retour, il y a eu la déprime. La déprime est arrivée par la suite et il y a eu la naissance qui est très importante. Vous êtes une jeune maman. Cette déprime, elle est arrivée comment ? Et vous l'avez sentie venir et pourquoi ?
Quand j'ai porté plainte, j'étais enceinte de 4 mois. Donc j'ai vécu le fait de devoir tout raconter à mes parents enceintes. J'ai vécu la procédure judiciaire enceinte. Donc je pense que... qu'il y a eu un effet, j'ai été beaucoup suivie et une psychologue m'avait dit le choc de l'accouchement a déclenché le choc en fait du traumatisme que j'ai vécu et je pense que c'est pour ça que j'ai fait une très très grosse dépression à la naissance de ma fille qui a été mais vraiment horrible où là voilà j'ai voulu me suicider, j'ai été hospitalisée dans des hôpitaux psychiatriques, j'ai vécu vraiment des choses, je suis tombée au plus bas quoi, c'était, je pensais pas remonter un jour, en fait, ça a été quelque chose de... Voilà, je pensais ne plus être moi, plus jamais, en fait. Et c'est quelque chose qui est vraiment horrible et dur à surmonter, vraiment.
Qu'est-ce qui a fait que vous êtes sorti de cet enfer de Dante que vous avez vécu ? Vous avez réussi à sortir la tête hors de l'eau, ensuite ?
Je pense que... Un tout a fait que j'ai été entourée. J'ai pris beaucoup de médicaments, j'ai été hospitalisée, petit à petit, il fallait que je revive, en fait, de me dire je peux pas rester comme ça toute ma vie. Donc ça a été très très long, ça a mis plusieurs mois, ça a mis plusieurs années pour redevenir comme il faut. Quelqu'un de normal, comme je dis toujours, j'étais pas normale. Mais je pense que l'entourage, voilà, le fait de se dire d'être entouré, d'être aimé, d'être soutenu, ça y a fait énormément.
Alors là, nous sommes dans un processus, bon, ça a été un peu mécanique, hein, ce processus, vous l'avez suivi, vous avez réussi à braver bon nombre de choses. De quelle façon est-ce que vous êtes passé à l'écriture ? Parce que là, c'est pareil, c'est une énergie qu'il va falloir encore canaliser, une volonté, puis en même temps, une façon de se livrer, une fois de plus.
Alors, avant, ça faisait des années que j'avais, que j'avais envie d'écrire, que j'écrivais d'ailleurs. J'écrivais des lignes sur un petit cahier, mais jamais je pensais un jour sortir un livre. Il y a eu, avant l'écriture, il y avait eu, en 2018, j'ai créé une association qui s'appelle Violeurs d'innocence sur Facebook. Et j'ai fait une émission télévisée sur France 2 qui s'appelle « Ça commence aujourd'hui » et qui m'a permis, en fait, de... Grâce à l'émission, en fait, il y a... Et mon association, des dizaines, des centaines même de personnes, de victimes qui m'ont par la suite contacté pour me dire « Bravo, vous avez réussi à parler, vous m'avez aidé grâce à vous ». En fait, un peu comme moi, j'avais vécu ce que j'avais vécu avec Jérôme, en voyant Jérôme, en me disant « Mon Dieu, il a eu ce courage de parler, je vais faire la même chose ». Voilà, j'ai vécu la même chose, moi, en parlant d'aider d'autres victimes. Et grâce à ça, ça m'a permis de me dire « Là, maintenant, c'est un nouveau combat que tu vas mener. Tu as réussi à porter plainte, tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, tu vas te battre pour les autres et permettre en fait, de faire parler, d'aider à parler les victimes. » Et voilà, c'est ce que je veux faire maintenant. Et après, concernant mon livre, ça faisait donc des années que j'avais envie d'écrire. Je n'avais pas la force ni le courage. Et mes enfants étaient petits, je m'en sentais pas capable, en fait, de raconter vraiment tous les détails. Et, que, voilà. Et là, c'était maintenant, c'était un besoin aussi. Je me suis dit, allez, vas-y, continue, écris. Et une fois que j'ai commencé, je me suis dit, allez, il faut le terminer. Et une fois que j'ai terminé, je me suis dit, maintenant, il faut le mettre au grand jour. Et voilà, ça s'est fait comme ça.
Vous avez créé donc votre association, vous êtes assistante maternelle. L'emploi du temps est très chargé, vous n'arrêtez pas, vous arrivez à tout canaliser.
Oui, je suis assistante maternelle à la MAM de Sisteron, j'adore mon métier, je me régale. Ça prend beaucoup de temps, c'est vrai, et d'énergie. Et puis après, il y a les autres enfants à la maison, trois j'en ai, donc c'est pas simple, mais on y arrive, on arrive à tout faire. Quand on a vraiment le besoin et l'envie, on peut y arriver.
Mélodie Abraham, dans votre livre, vous êtes particulièrement directe dans « Je l'appelais tonton ». Vous êtes directe de quelle façon pour les personnes qui nous écoutent ?
Dans mon livre, je suis directe sur tout. Il n'y a aucun tabou, il n'y a aucun... Je voulais être transparente sur tout, que ce soit sur les viols qui ont été faits, que ce soit sur le fait d'expliquer ce que ressent un enfant, ce qu'il vit exactement. Chaque détail, c'est un peu dur, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mon Dieu, c'est dur à lire, mais c'est la vérité, c'est comme ça que ça se passe. » Et je pense que ça peut permettre aux gens de faire un déclic dans la tête des gens et de se dire « Il faut vraiment qu'il y ait plus de prévention dans toutes les familles, qu'il y ait plus de prévention dans les écoles, pour expliquer aux enfants que leur corps leur appartient. » Le consentement, il y a un travail tellement énorme à faire en fait sur tout ce qui est violence sexuelle, que ce soit sur la prise de conscience des gens, que ce soit sur la prévention auprès des enfants. Et vraiment, je voulais écrire ce livre vraiment pour aider les victimes. Voilà, ça c'était vraiment ma priorité parce que j'ai vécu le pire, on va dire, dans les viols, mais dans ma dépression aussi, dans mes dépressions, parce que j'en ai fait plusieurs. Et je voulais leur montrer et leur expliquer qu'on peut être au plus bas, mais on peut remonter tout doucement. Et on peut s'en sortir, on peut y arriver, on peut devenir une personne normale et vivre et être heureux, être aimé, voilà. Et c'était vraiment le message que je voulais faire passer dans mon livre, en fait.
Vous avez été déconstruite, vous êtes reconstruite. Un livre d'espoir, une vie devant, une vie après ce livre ?
Oui, c'est exactement ça. C'est la déconstruction et la reconstruction. Avec toutes les étapes qu'elle a en intermédiaire, c'est tout, rien n'est jamais fait en fait, même si aujourd'hui ça va beaucoup mieux, il faut toujours rester sur ses gardes et se battre encore et toujours, mais maintenant je veux me battre pour les autres, donc c'est ce qui me fait le plus grand bien et de me dire que je peux aider d'autres personnes sur tous les fronts, voilà, parce qu'il y a plusieurs fronts différents. Et ça, c'est la récompense, en fait, de tout ce qu'on a vécu. Voilà.
Mélodie, quand vous portez votre regard sur la petite fille de 6 ans que vous avez été, quelle impression vous en avez ? Quel message vous avez envie de faire passer après ça ? Et qu'est-ce que vous lui diriez à cette petite fille ?
C'est compliqué comme question. Je dirais que c'est dommage qu'elle n'ait pas été assez forte à ce moment-là, même si je la comprends maintenant. Mais si elle avait dit oui, juste un mot en fait, juste un oui, ça aurait changé beaucoup de choses, peut-être dans le mal, parce que peut-être que mon père réellement, il serait allé, il l'aurait tué, et que finalement, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais si elle avait osé dire oui à ce moment-là, les choses auraient été différentes. Et je veux que vraiment que qu'on apprenne aux enfants à dire non, mais à dire oui aussi, à parler en fait quand il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si on m'avait prévenu de tout ça, si on m'avait dit, voilà, si quelqu'un vient te voir et te demande de toucher certaines parties, si on te demande de faire des choses que tu ne veux pas, parle-en, il faut dire non. Et il faut parler à des personnes qui te donnent confiance. Et bien, peut-être que tout ça ne serait pas arrivé et que ma vie aurait été plus facile, on va dire. Et ça, ça arrive à tellement de personnes et il faut plus que ça arrive. Et il y a des enfants qui vivent la même chose à ce moment même. Et il faut plus que ça arrive, ce genre de choses. Voilà. Il faut parler, Après, je sais que c'est facile, mais il faut vraiment, et je sais, puisque j'en suis la preuve, que parler, ça permet d'être sauvé, en fait. Ça aide énormément.
Mélodie, quand vous avez mis un point final à « Je l'appelais tonton », qu'est-ce que vous avez éprouvé ?
Oh, c'était un soulagement. J'ai passé 2 ans à l'écrire. C'était très, très long, très compliqué. Il y a eu des passages, des moments où je ne voulais plus écrire. Pendant des semaines, j'y arrivais plus. J'ai mis 2 ans et quand je l'ai fini, ça a été... J'étais fière de moi, voilà, d'avoir raconté, d'avoir dit que ça plaise ou que ça ne plaise pas ou que ça choque ou que ça aide ou que ça n'aide pas. Je savais que... Tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais écrit, c'était tout ce que je ressentais depuis des années et ce que je voulais exprimer et que je n'ai jamais pu exprimer parce que je l'ai exprimé auprès des psychologues, aux gendarmes, aux assises quand il y a eu le procès, mais pas sous cette forme détaillée, cette forme, c'est tout ce que j'avais à l'intérieur de moi qui a été mis sur papier et ça m'a aidé aussi énormément. Mais ce qui m'aide aujourd'hui encore plus, c'est quand je reçois des appels ou des messages de victimes et qui me disent « j'ai lu votre livre » ou des professionnels et ça a aidé d'autres personnes. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Voilà, je me dis ça a été compliqué, mais finalement, j'aide et c'est le but ultime.
Votre livre reçoit une très belle critique. On le trouve sur Amazon. Comment est-ce qu'on peut faire pour se le procurer, ce livre « Je l'appelais tonton » signé Mélodie Abraham?
Oui, il se trouve sur Amazon. Il se trouve aussi dans différents lieux du département. Pour l'instant, il est à la Maison de la Presse de Digne-les-Bains, à la Maison de la Presse de Sisteron. Il est à la librairie de Château-Arnoux et à Intermarché à Pépin. Et là, j'attends de recevoir d'autres livres pour en mettre dans d'autres lieux, pour essayer d'en mettre un peu partout dans le 04. Voilà, et mon but, c'est qu'il soit lu par des gens du département, de la région, mais aussi... en national, on va dire. Au plus il sera lu, au plus il y aura une prise de conscience. C'est ça que je me dis. Donc voilà, c'est le but.
E-book également ?
Oui, il est en e-book sur Amazon aussi, oui. Je vais parler de quelques projets qui sont en cours et qui me tiennent à cœur. Dans quelques semaines, je vais créer un groupe de parole sur Sisteron. Mon but, c'est vraiment que les gens puissent parler et un groupe de parole où il n'y a que des personnes qui ont vécu les mêmes choses, pas les mêmes histoires bien sûr, mais les mêmes choses, des victimes de violences sexuelles, et de se dire, voilà, je m'ouvre, je parle à des personnes qui ont vécu les mêmes choses, donc qui me comprennent, qui ne me jugent pas. Donc voilà, c'est un très beau projet, j'ai l'accord du maire, j'attends juste l'autorisation du lieu, un peu de tout ce qui est administratif, on va dire, mais j'ai déjà une quinzaine de personnes qui seraient intéressées par ce groupe de parole. Et très prochainement, je dois intervenir dans des lycées pour parler de mon livre, mais aussi, je me suis dit, des jeunes qui vivent, parce qu'il y en a, bien sûr, qui vivent la même chose que ce que j'ai vécu à ce moment-là, ce moment même, et qui se disent, oh, mais tiens, elle a vécu les mêmes choses que moi, elle habite pas loin de chez moi, peut-être que je vais pouvoir m'ouvrir et parler à elle. Et me libérer, voilà. Donc c'est vraiment de la prévention et de l'aide. C'est en cours. Merci beaucoup. Merci à vous.